Vous écoutez, on lit pour vous.
Elles n'ont nulle part où aller. Waterloo dépourvu de refuge pour femmes. Un texte de Gregory Wilson, paru le 11 août 2024 sur Ici Toronto. Un regroupement de militants de la région de Kitchener-Waterloo demande à différents niveaux de gouvernement de fournir un refuge destiné exclusivement aux femmes et aux personnes de diversité sexuelle et de genre en situation d'itinérance. Dans une lettre ouverte destinée aux élus concernés, mercredi, le centre de santé Sangen souligne que le manque d'espace force les femmes à faire des choix impensables. La situation serait particulièrement sévère à Cambridge, qui fait aussi partie de la municipalité régionale de Waterloo. Certaines femmes retournent ou restent dans des situations de violence à la maison si elles ne peuvent pas avoir accès à l'un des 90 lits d'hébergement pour les victimes de violences conjugales dans la région parce qu'elles n'ont nulle part où aller, expose le centre de santé dans la lettre. Plusieurs femmes refusent de se rendre dans des refuges mixtes par peur d'être violentées, selon Erin Desch, professeur agrégé en criminologie à l'Université Wilfrid Laurier, qui fait partie de la vingtaine de militants et organismes signataires. Elles ont vécu tant de violences dans leur vie, parfois même dans des refuges, déplore la professeure. Les femmes sont donc contraintes de trouver d'autres solutions. Elles sont dehors et font du camping, peut-être même avec leurs enfants, car elles n'ont nulle part où aller, souligne Erin Desch, professeur agrégé en criminologie à l'Université Wilfrid Laurier. Les signataires demandent à la région d'autoriser immédiatement la création de refuges réservés aux femmes. Ils réclament également, de différents niveaux de gouvernement, que les terrains et les bâtiments inoccupés soient mis à la disposition des organisations à but non lucratif pour qu'ils puissent fournir un abri, un logement et des services essentiels aux femmes sans domicile fixe. Dorothy McCabe, la mairesse de la ville de Waterloo, l'une des 7 municipalités membres de la région du même nom, ne se le cache pas. La crise de l'itinérance chez les femmes et les personnes de diversité sexuelle et de genre est absolument un dossier critique pour la communauté. Pour remédier à la situation, dit-elle, la région a notamment acheté le refuge pour femmes au 84 rue Frédéric à Kitchener du YWCA de la ville qui a fermé ses portes en juin dernier. Madame McCabe affirme que la région compte ouvrir le refuge de 66 places sous un nouveau modèle en consultation avec le YWCA et d'autres partenaires communautaires. Des milliers d'itinérantes cachées. La professeure Desch qualifie les femmes et les personnes de diversité sexuelle et de genre qui ne se rendent pas dans des refuges d'itinérantes cachées, car la région ne peut réellement quantifier l'ampleur dans ces chiffres. Elle ajoute que ces personnes n'accèdent pas non plus aux services offerts dans un refuge qui pourrait les aider. Il est également difficile de mesurer combien de ressources sont nécessaires. Les investissements sont mesurés par ce que l'on voit et ce que l'on sait, raconte-t-elle. Puisqu'on ne voit pas autant les femmes itinérantes, on ne met pas autant l'accent sur la question. Néanmoins, le nombre de femmes itinérantes se compterait par milliers dans la région. Elle explique que le milieu communautaire extrapole les données d'un sondage sur le nombre de femmes en situation d'itinérance à l'échelle nationale. Nous avons déduit qu'il y aurait approximativement 5 000 femmes en situation d'itinérance à Cambridge et plus de 20 000 dans toute la région de Waterloo, ajoute-t-elle. Madame Desch affirme que les efforts de la région pour ouvrir le refuge de Kitchener sont un pas dans la bonne direction. Elle salue également une deuxième initiative dont elle a eu vent, soit celle d'ouvrir un refuge destiné exclusivement aux femmes et aux personnes de diversité sexuelle et de genre de 20 lits à Cambridge. Cela dit, 86 places de refuge, C'est loin d'être suffisant pour répondre à l'ampleur du problème dans la région, maintient-elle. Madame Desjes souhaite notamment que le gouvernement provincial soit un leader dans ce dossier, en investissant davantage pour financer les solutions à court et long terme dans la lutte contre l'itinérance dans la région. C'était « Elles n'ont nulle part où aller », Waterloo dépourvu de refuge pour femmes, un texte de Gregory Wilson, paru le 11 août 2024 sur Ici Toronto.
Une création québécoise au milieu du visage, un texte de Roxane Liouzon, paru le 30 juillet 2024 dans Le Devoir. Dans la plupart des boutiques d'opticiens, il est inutile de chercher des montures faites au Québec. Vous avez peu de chances d'en trouver puisqu'à peine une poignée de fabricants ont élu domicile dans la province. Les choses pourraient toutefois changer tranquillement grâce à des passionnés qui développent un savoir-faire local inédit. Dans l'atelier Aura, dans le Maryland, l'artisan Félix Montmorency porte des caches-oreilles jaunes pour se protéger du bruit. Le son provient de la machine qui découpe une à une la forme des montures dans les plaques d'acétate. Il s'agit en fait de cellulose de coton, une matière légère et résistante qu'on retrouve dans la fabrication de lunettes de haute qualité. Beaucoup de lunettes de consommation de masse sont en plastique moulé, souligne M. Montmorency, estimant que l'apparence et la durabilité de ces dernières sont moins bonnes. Sur une table de travail, des pots sont remplis de branches d'acétate de diverses couleurs, elles aussi taillées sur place, au laser. Le procédé de réalisation des montures prend au moins 2 semaines et de multiples manipulations, explique Pascal Ferraris, copropriétaire de l'entreprise. Les branches et le cadre sont sablés séparément à la main avant de passer à l'étape du polissage. Les morceaux sont alors plongés dans 2 tonneaux rotatifs contenant des billes de bois pendant l'équivalent de 4 nuits, entrecoupées de périodes de sablage. À la fin, la monture est brillante et ne peut pratiquement pas s'égratigner, explique Pascal Ferraris. Une tige de métal est insérée par pression dans les branches à l'aide d'une machine qui ramollit l'acétate. L'assemblage de la monture, incluant l'installation de vis et de rivets, est fait à la main. Finalement, des inscriptions sont faites au laser sur les branches et sont enjolivées par de la peinture dorée. Il sort ainsi de l'atelier environ 1 000 montures par année, grâce à l'implication de 4 paires de bras. La fabrication a lieu sur place de A à Z. La matière première, elle, est importée. Un transfert de connaissances. Atelier Aura a été fondé en 2022 par Catherine Pelletier-Lauzon, qui possédait déjà la lunetterie Aura. Elle souhaitait proposer une offre de montures locales, notamment pour des raisons écologiques. La plupart des lunetiers et des optométristes québécois qui ont développé leur propre collection font fabriquer leurs produits en Europe ou en Asie. Il n'y a aucune école qui enseigne la fabrication de montures en Amérique. Il y en a en France, mais pas ici, rapporte l'opticienne. La façon de l'apprendre, c'est par le biais d'un maître, quelqu'un qui décide de te le montrer. Madame Pelletier-Lauzon a eu la chance d'acquérir des connaissances auprès d'un fournisseur torontois qui lui avait annoncé qu'il fermait. Ce dernier lui a aussi vendu sa machinerie. Sa collection Atelier Aura compte plusieurs modèles vendus environ entre 450 $ et 520 $. Madame Pelletier-Lauzon estime que ce prix est comparable à ceux de lunettes importées de même qualité. Par ailleurs, un nouveau modèle vient d'être lancé en collaboration avec le groupe québécois Doyle Optométriste, qui possède 25 succursales. Cette monture nommée Maryland, au motif à écailles brunes, noires et blanches, peut servir comme lunette solaire ou ophtalmique. Elle va se détailler 395 $. On a comprimé nos marges de profit, a rapporté Jade Posé, directrice de l'approvisionnement chez Doyle, pour expliquer la différence de prix avec les autres modèles d'Atelier Aura. Elle dit avoir aussi travaillé avec Atelier Aura à réduire les coûts de production. Doyle souhaite ainsi encourager ses clients à consommer québécois puisqu'elle a les mêmes valeurs et la même volonté de développer une expertise locale que l'équipe de Mme Pelletier-Lauzon. Cette dernière se réjouit du partenariat qui lui permet de bénéficier d'un réseau de 25 boutiques. On est un petit atelier avec un impact de niche et local. Plus on va être nombreux à porter le même message, plus il sera fort, affirme Mme Pelletier-Lauzon. Ça vient élever nos voix. Une pionnière de l'acétate recyclé. Une autre voix forte dans ce domaine est celle d'Anne-Marie Faniel. Chanteuse d'opéra et artiste multidisciplinaire, elle a ouvert, il y a une vingtaine d'années, la lunetterie Les Branchés avec son mari opticien Patrick Bolduc. Pour la boutique, je ne trouvais pas les formes et les couleurs que je voulais, raconte la designer. Quand j'ai su qu'on jetait les retailles d'acétate, j'ai cogné aux usines en France, je voyais dans ma tête qu'on pourrait les recycler. Elle a alors travaillé à l'élaboration d'un procédé et elle a fait produire en France les montures Faniel. Depuis 5 ans, son conjoint et elle ont rapatrié la production au Québec, plus précisément à Valmorin, dans les Laurentides, où ils emploient une douzaine de personnes qui ont été formées sur place. Plusieurs de leurs modèles sont en acétate recyclé, qu'ils sont les seuls à faire au Québec. On recycle jusqu'à 100% de la matière, non seulement les retailles, mais aussi la sciure d'acétate, souligne Mme Faniel. En gros, la machine qu'ils ont créée permet de concasser et de faire fondre ces rebuts, ce qui crée de nouvelles couleurs. Mme Faniel et son équipe ont réussi à se bâtir un vaste réseau de distribution internationale qui compte environ 700 points de vente aux États-Unis, où elle écoule ses 15 000 à 20 000 montures par année. Mais attention, chaque paire de lunettes est considérée comme exclusive, puisque l'entreprise produit une petite quantité de chaque modèle et de chaque coloris. En faveur de l'accessibilité. Dans les boutiques Les Branchés, les montures Faniel sont vendues à partir de 259 $. C'est 40 à 50% moins cher que le prix du marché, estime la femme d'affaires. Elle souligne d'ailleurs qu'un grand nombre de lunettes bas de gamme sont proposées dans les lunetteries à des prix comparables. Pour pouvoir offrir ces prix, Mme Faniel dit avoir choisi des marges de profit beaucoup plus faibles que les marges normales de l'industrie, qu'elle juge extrêmes. « Avec ça, je vis quand même très bien », précise-t-elle. « Notre philosophie est de permettre à tous d'avoir accès à la qualité », ajoute-t-elle. Les Branchés sont en pleine expansion, avec l'ouverture de 2 nouvelles franchises en juin 2024. Mme Faniel invite les opticiens intéressés à se joindre à eux, puisqu'ils ont le Québec à développer. Le Devoir et les intervenants consultés pour cet article ont dénombré 2 autres entreprises qui fabriquent des lunettes au Québec. Il y a la collection Marie-Sophie Dion, vendue dans les boutiques Bar à lunettes. Le magasin Les Lunettes de l'Atelier propose aussi une petite collection réalisée dans son local de Gatineau. Catherine Pelletier-Lauzon juge qu'il y a assez de place pour de nouveaux joueurs québécois. Selon elle, plus il y aura de fabricants d'ici, plus les consommateurs auront la possibilité d'acheter local et d'être sensibilisés à la question. C'était Une création québécoise au milieu du visage, un texte de Roxane Liouzon, paru le 30 juillet 2024 dans Le Devoir.
La petite histoire de la crème glacée. Un texte commandité, paru le 29 juillet 2024 dans La Presse. Molle ou dure? Choco ou vanille? Trempé dans le chocolat ou pas? La rumeur veut qu'il reste encore plein de belles soirées d'été pour débattre de ces questions chez le glacier. De son invention à sa présence dans la culture populaire, quels moments ont marqué la petite histoire de ce dessert qui nous fait fondre d'envie? Environ 400 ans avant Jésus-Christ. Bien que les origines de la crème glacée restent obscures, en Chine antique, Les empereurs et aristocrates de l'époque consomment des desserts concoctés avec de la neige recueillie sur les sommets montagneux. Les Chinois y ajoutent des mélanges lactés ou sucrés pour en faire un délice glacé. On trouve aussi des traces d'un dessert s'apparentant à la crème glacée chez les Perses, qui préparent le faloudé à partir de vermicelle de riz, d'eau de rose et de sirop sucré. Il s'agit également d'une gourmandise réservée à la royauté et à l'élite. 13e siècle. La légende veut que l'explorateur Marco Polo ait rapporté la recette de la glace chinoise à son retour en Italie. C'est ainsi que le gelato a vu le jour. De la même façon que le rôle de Catherine de Médicis dans la popularisation de la crème glacée en Occident est contesté, cette version des événements ne fait pas l'unanimité auprès des historiens et des historiennes. Qui dit vrai? Année 1700. La crème glacée finit par traverser l'Atlantique et faire son apparition en Amérique du Nord. On dit que Thomas Jefferson raffolait de ce dessert qu'il servait lors de réceptions à la Maison-Blanche. C'est d'un voyage en sol français que le père de la Déclaration d'indépendance des États-Unis et troisième président américain a rapporté la précieuse recette de la glace à la vanille. Cet artefact est aujourd'hui conservé dans les archives de la Bibliothèque du Congrès. 1843. Une invention vient démocratiser la crème glacée dans les chaumières américaines, la sorbetière à manivelle. C'est à Nancy Johnson que l'on doit cette ingénieuse idée. L'appareil domestique, breveté en 1843 par l'inventrice de Philadelphie, a grandement contribué à la popularisation de la crème glacée. 1903. Maïs, ketchup, igname pourpre. Vous trouvez que les parfums excentriques de votre bar laitier favori rivalisent d'originalité? Dès 1903, le père de la gastronomie moderne, le Français Auguste Escoffier, sort des sentiers battus en ajoutant une recette de glace aux asperges à son guide culinaire. À servir en accompagnement de vos mets de poisson. Année 1930. Vous êtes accro à la crème glacée Rocky Road? Vous ne saviez probablement pas que votre saveur préférée remonte à la Grande Dépression. Additionnée de morceaux de guimauve et d'amandes, la glace au chocolat devient plus attrayante pour les consommateurs et consommatrices de l'époque. Un petit remontant pour traverser le chemin chaotique de la crise économique. 1945. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la crème glacée est employée pour fouetter le moral des troupes. L'armée américaine en fait une priorité et dépense $1 million pour stationner dans le Pacifique un navire entièrement réservé à la distribution de crème glacée à ses soldats. Milieu du 20e siècle. La crème glacée molle arrive chez nous. Sa découverte, accidentelle, remonterait cependant aux années 1930 aux États-Unis. Selon la petite histoire, le camion du glacier Tom Carville serait tombé en panne, laissant dès lors à sa clientèle le plaisir de savourer une douceur glacée à la texture fondante. Plusieurs chaînes bien connues ont par la suite popularisé ce produit plus crémeux dans leur bar laitier. 1950. La crème glacée n'est plus considérée comme un produit de luxe au Canada. Le gouvernement retire la taxe sur cet aliment qu'affectionnent jeunes et moins jeunes. Année 1960. La crème glacée lyophilisée voit le jour. Mise au point à l'origine pour l'Agence spatiale américaine, NASA, la crème glacée spatiale trouve aussi son public sur Terre qui en apprécie l'expérience de dégustation insolite. Aujourd'hui, au Canada, chaque personne se délecte d'environ 4,5 litres de crème glacée par année, selon les données de Statistique Canada. Si c'est moins que par le passé, les consommateurs ont aujourd'hui accès à une multitude de choix. Sucré ou salé, à base de produits laitiers ou de tofu, nature ou avec garniture, la glace s'adapte vraiment à toutes les envies. C'est ce qui en fait la meilleure amie de nos étés. C'était la petite histoire de la crème glacée. Un texte commandité, paru le 29 juillet 2024 dans La Presse.
Éric Bruno et Paul Mescal m'ont fait changer de bord. Une chronique de Samuel Larochelle parue le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue. Je suis généralement contre l'idée que les hétéros interprètent des personnages homosexuels, mais deux acteurs sont en train de me faire changer d'idée. La façon dont joue Paul Mescal dans le film « All of Us Strangers » et Éric Bruno dans la série « In Memoriam » est une leçon pour tous les straights qui essaient sans succès de nous représenter à l'écran. Puisque la première phrase de ma chronique a certainement fait monter plein de monde dans les rideaux, commençons par un résumé de ma posture initiale. Dans un monde idéal, où les injustices en société n'existeraient plus, on pourrait affirmer que n'importe quel acteur devrait pouvoir jouer un gay, peu importe son orientation sexuelle, parce que son travail est de se glisser dans la peau d'autrui. Pourtant, cette idée ne passe pas le test du réel pour deux raisons. La première, il existe encore une homophobie extrêmement dommageable dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Les acteurs gays prennent un risque en affichant publiquement leur orientation sexuelle. Cette simple information peut convaincre plusieurs personnes en position de pouvoir et dans le grand public qu'ils ne sont pas crédibles pour jouer les hétéros. Ce qui peut les mener au chômage ou les cantonner à des rôles queer qui, même s'ils sont plus diversifiés qu'avant, n'offrent pas encore les nuances des personnages hétéros. Donc, moins de défis. Sachant que leur carrière peut plafonner ou décliner s'ils sont ouvertement gays, plusieurs acteurs se concentrent sur les rôles d'hétéros en tentant de cacher les traits de leur homosexualité en audition durant les portions hors personnage, ce qui les rend moins naturels que leurs collègues, donc moins intéressants. Et s'ils font un aussi bon travail qu'un acteur hétéro, ils seront parfois mis de côté, parce que leur popularité est moins grande. Popularité qui, ne l'oublions pas, est largement alimentée par les portions de vie privée qu'on partage dans les magazines, sur les réseaux sociaux et sur les tapis rouges. Trois milieux où les acteurs gays dans le placard filtrent plus que les hétéros le contenu qu'ils partagent. Évidemment, certains acteurs queer jouent des rôles d'hétéros avec succès et semblent contredire tout ce que je viens d'écrire. Pensons à Neil Patrick Harris, How I Met Your Mother, Cynthia Nixon, Sex and the City, Luke Evans, The Hobbit, Jodie Foster, The Silence of the Lamb, ou Jonathan Bailey, Bridgerton. Mais n'oublions jamais que l'argument des exceptions ne sera jamais aussi fort que l'écrasante quantité de queer dans le placard d'hier à aujourd'hui. Deuxième raison soutenant mon opinion initiale. Les hétéros qui jouent des homos sont rarement crédibles, soit parce que certains détails de leurs personnages offrent une représentation stéréotypée qu'ont laissé passer les scénaristes, réalisateurs, producteurs, diffuseurs ou patrons de studios qui n'ont pas assez de personnes queer dans leur entourage pour avoir une vision nuancée des communautés arc-en-ciel. Quand je regarde un film et que je vois deux acteurs se donner un bec sur la bouche sans ce je-ne-sais-quoi qui ne me donne pas l'impression que deux amis ont perdu un pari et qu'ils doivent s'embrasser durant un party de frat boys, je suis déçu. Quand la représentation des ébats sexuels entre deux hommes ne dépasse pas la mécanique hautement chorégraphiée et que je ne suis pas traversé par la moindre pulsion de désir qui redéfinirait la forme de mes sous-vêtements, je suis frustré. Cela dit, deux magnifiques exceptions sont apparues dans mon champ de vision récemment. L'hiver dernier, le film « All of Us Strangers » m'a cassé en deux. Pas seulement en raison de son scénario ultra-touchant, mais grâce à la complicité spectaculaire qui unit Andrew Scott, un acteur queer au talent stupéfiant, et Paul Mescal, un acteur hétéro en voie de devenir l'une des plus grandes vedettes de sa génération. On le verra sous peu jouer dans la suite de Gladiator. En plus de faire preuve d'une vulnérabilité vertigineuse dans son personnage, Mescal n'a pas peur de vivre de réels moments de tendresse avec Scott. Leur complicité dans le film et lors des entrevues promotionnelles saute aux yeux de quiconque les regarde. Éric Bruneau m'a laissé une impression similaire dans In Memoriam. Bien entendu, des milliers d'homosexuels ont gloussé à l'idée que le bel Adonis joue l'un des nôtres, mais Bruneau prouve à nouveau qu'il est bien plus qu'une belle gueule. Sa sensibilité fait du bien à l'âme. Sa façon de toucher Thomas Anthony Olagide, qui interprète son copain, est empreinte de sincérité. Et ses scènes de rapprochement dans une salle de bain avec l'acteur Samuel Côté sont un bijou d'intensité sexuelle. Au-delà de leur talent indéniable, Éric Bruneau et Paul Mescal semblent avoir une chose en commun. Ils sont assez solides dans leur masculinité et dans leur identité pour assumer leurs émotions et aller jusqu'au bout de leur proposition d'acteur. Et pour cette raison, j'ai un immense respect pour eux. C'était « Éric Bruneau et Paul Mescal m'ont fait changer de bord », une chronique de Samuel Larochelle, parue le 21 juin 2024 dans le magazine Fugue.